RCF.
Bonjour, fidèles auditeurs, auditrices de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry avec Agora Défense. 1871-2021, il y a 150 ans, la France impériale disparaissait dans la tourmente d'une cuisante défaite face à la Prusse. Effondrement d'une armée impériale très mal préparée, mais où le courage de nos vaillants soldats n'a pu empêcher cette catastrophe. Aujourd'hui, nous accueillons un homme de passion, collectionneur, membre d'Agora Défense. Je veux nommer Guy Gross. Bonjour Guy.
Bonjour.
Guy, si je prononce le nom du commandant Martin, immédiatement, vous allez me dire, je connais.
Oui, je connais, oui.
Très bien. Justement, ce commandant Martin illustre parfaitement mon propos, à savoir le courage du combattant français dans cette terrible guerre de 1870-1871. Mais avant de mieux connaître commandant Martin, dont vous êtes un des spécialistes berruyers, mon cher Guy.
Je ne suis pas le seul.
Je sais. Pouvez-vous nous rappeler les causes qui nous mènent à cette guerre de 1870?
La vie du commandant Martin se situe donc dans l'environnement de la guerre de Crimée.
La guerre de Crimée, oui.
Voilà. Que Napoléon III, qui régnait à l'époque sur la France, a entrepris avec ses alliés de l'époque, qui étaient la Russie, la Turquie et l'Angleterre, et le Piémont. Et ça, c'était lié au problème des détroits pour la liberté de passage vers la Crimée, quoi.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Il y a eu une bataille célèbre pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la Crimée par les Allemands. Pour la petite histoire, le général qu'on a fait passer pour un grand humaniste et qui a sauvé Paris, le général von Scholtitz, c'est celui qui commandait à Sébastopol, où là, il a rasé, il a tué tout le monde.
Très bien.
C'est pas la même époque, hein, c'est la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Voilà. Alors, justement, mon cher Guy, est-ce que notre armée impériale, en 1870, elle est prête?
Non, elle n'est pas prête, parce que les événements l'ont montré. C'était toujours la même organisation à peu près que sous le Premier Empire. Il n'y avait pas eu de gros progrès de fait dans l'armement. Bref, on vivait un peu sur la gloire passée du Premier Empire.
Ouais, c'est-à-dire qu'on était encore au combat, au corps à corps.
Ah ben oui, mais ça, oui, jusqu'en 14, c'était comme ça.
Ah, c'était comme ça, oui, tout à fait.
Et par contre, les Allemands, eux, c'était avec Bismarck. Et Guillaume Ier, eux, étaient entraînés parce qu'ils ont constitué leur empire allemand par de multiples guerres. Il y avait beaucoup de duchés indépendants, de princes régnants aussi, cela. Donc, ils étaient beaucoup mieux entraînés que nous.
Et voilà. Ils avaient un service militaire, je crois. Service militaire que nous n'avions pas de service national. C'était encore une conscription, c'était encore un tirage au sort. Et même les plus riches pouvaient se faire remplacer. Donc, c'est vrai que les uniformes étaient magnifiques, étaient superbes. Hein. Les uniformes du Grand Empire, c'est magnifique. Hein.
Ah ben, ils sont, oui, très beaux. Très beau.
Mais oui, ça suffit pas.
Les soldats eux-mêmes, indépendamment, ils avaient les mêmes qualités que leurs ancêtres, hein, sans doute. Comme aujourd'hui, comme toujours, ça c'est pas nouveau.
Mais ils n'étaient pas prêts.
Le problème, c'est qu'il faut obéir aux ordres. Et si le chef est mauvais, là...
On est d'accord. Alors justement, parlez-moi d'Auguste Martin. Joseph Auguste Charles Martin.
Ah ben, c'est un berrichon de naissance. Il est né le 19 juin 1825 à Bourges, dans un milieu bourgeois. Il est fils de Jean-Louis, qui est un avoué. On peut dire aujourd'hui un avocat, à peu près. Et de Marie-Julie Joly, qui est aussi une berrichonne, qui est née à Raymond. Son père étant né au Coupois. Charles Martin est décédé le 1er décembre 1870, à 8 heures.
Bon, le commandant Martin, nous le connaissons. Alors, quel est le contexte de sa nomination?
Le commandant Martin, c'est un jeune qui, au sortir de ses études, où il a dû avoir l'équivalent du bac d'aujourd'hui, voulait être militaire. Il a voulu faire Polytechnique. Il a échoué au concours d'entrée à Polytechnique.
Oui.
Et donc, il s'est engagé dans un régiment pour pouvoir après se présenter à l'école spéciale militaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Saint-Cyr aujourd'hui, où il intègre donc cette école le 25 novembre 1847. Donc après, il suit la carrière, il est lieutenant au 42e de ligne quand il arrive en Crimée en octobre 1854. Le 12 décembre, il est très grièvement blessé. Un coup de crosse, des coups de baïonnette dans les cuisses, dans le bas-ventre et dans l'estomac, enfin bon, je passe, à Sébastopol.
Oui.
Et il est fait prisonnier. Les Russes, par admiration pour son héroïsme, il avait dû être remarqué par les fils du tsar, plusieurs généraux qui ont eu vent de sa situation et qui sont venus lui rendre visite, prendre de ses nouvelles, ainsi de suite. Et ils l'ont traité avec tous les soins qu'ils pouvaient trouver à l'époque. Donc il était un peu célèbre là. Ensuite, il y a eu la fin des conflits. Les prisonniers sont rentrés dans leur foyer et il avait été signalé à l'empereur Napoléon III, après avoir été soigné, quoi. Hein. Il est lieutenant au 42e de ligne en juillet 1855. Il est capitaine le 27 décembre 1858. Et il prend sa retraite avec pension par décret du 9 mai 1863. Donc ça, c'est la fin de sa carrière militaire classique.
Classique.
Quand éclate le conflit de 1870, il est...
hors cadre.
Je ne sais même pas s'il y avait une réserve à l'époque, mais enfin, il est hors cadre, il n'est plus dans un régiment. C'était quand même la moindre des choses, mais en rentrant en France, il a été reçu par Napoléon III, quand même.
Oui.
Je ne vous dis pas la date, oui. Mais il a attendu quand même 3 ou 4 ans, qu'il l'a fait comme chevalier de la Légion d'honneur. Donc là, il est à la retraite depuis... Seulement, quand les armées de la République ont été constituées, il a fallu mobiliser des volontaires, ceci, cela. Et il manquait de cadres, beaucoup. Parce que pour qu'on reprenne un officier qui est blessé à au moment là, il faut vraiment... Et donc, on lui a confié un bataillon du 19e léger, qui était le 19e de la garde mobile du Cher. Et donc, c'est pour ça qu'il a pris le grade de commandant, ce qui est normal.
Et il part au combat.
Ah oui, il prend son grade le 4 août 1870. À Juranville, on appelait ça, par exemple, à Bourges, le boulevard de Juranville, mais en vérité, c'est la bataille de Beaune-la-Rolande.
D'accord.
Et Juranville en fait partie. Donc, à Beaune-la-Rolande, il emmène son bataillon à la charge. Et c'est lors de cette charge qu'il est blessé mortellement.
Donc, le commandant Martin s'est fait reconnaître donc, à la bataille de Juranville, c'est bien ça, où il meurt héroïquement. Pourquoi est-ce que ce commandant Martin, malheureusement, il y a eu beaucoup d'autres qui ont été tués, pourquoi le commandant Martin est-il resté célèbre pour de nombreux berruyers de la fin du 19e et aussi au début du 20e siècle. Pourquoi est-ce qu'il est resté célèbre ?
Eh bien, parce que les deux guerres de 70 sont plutôt très mal déroulées pour nous. Et donc, on n'en fait pas de publicité, spécialement, ni dans l'époque où on y vit, ni dans l'époque d'après.
Cependant, il est célèbre à Bourges.
Eh bien, il est célèbre à Bourges parce que c'est quand même un héros. Mort comme sont censés mourir les héros traditionnels, quoi, depuis longtemps.
Ouais.
À la charge, en tête de la charge, le sabre au clair, à cheval, lui est à cheval. Alors, il y a dû avoir des archives pour ces choses-là, pas les dossiers militaires, mais comment ça s'est passé. On a ça plutôt dans la presse de l'époque.
Oui.
Bon, mais ils parlent pas d'eux. Par contre, il y avait des anciens, comme des anciens d'aujourd'hui d'un régiment, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Si vous allez à Juranville, au bord de la route départementale, vous avez un magnifique monument qui représente une combattante. Moi, ça me fait sourire. C'est une Gauloise qui est avec les longs cheveux et une armure en écaille, comme ça. Bon, avec tous les noms de tous les morts du régiment, et ainsi de suite.
Justement, est-ce qu'on peut trouver dans notre département du Cher, même à Bourges, des monuments commémoratif qui témoigne de l'action du commandant Martin.
Il y a la fameuse statue dite de l'homme taureau.
Oui.
Qui a été déplacée plusieurs fois. Oui. Ben maintenant, elle est dans la descente.
Oui.
Il y a le portrait en médaillon sur la partie nord, je crois, de ce. C'est une colonne carrée ou trapézoïdale. Et d'un côté, il y a le commandant Martin. De l'autre côté, il y a un général. Et devant, aux morts de 70, ou voilà.
C'est ce qui reste un petit peu du commandant Martin, à Bourges.
Ah, à Bourges, non, il a, il y a un boulevard de Juranville.
Oui.
Et il y a une rue du commandant Martin.
C'est ça.
Et une place du commandant Martin. Donc là, c'est un médaillon en bronze dû au sculpteur Jossan, qui est bien connu à Bourges, qui représente le profil de la tête du commandant Martin. Pour la petite histoire, si quelqu'un veut voir une belle statue d'un mobile, il y en a une qui est monstrueuse, qui doit faire pas loin de 3 mètres de haut, et qui est au cimetière, qui est avenue de Paris, le cimetière
Saint-Lazare,
où il y a d'ailleurs... Ce que peu de gens savent, un carré militaire très important, pour toutes les guerres.
Hein. Monsieur Grosse, où est-il enterré, notre commandant Martin, à Bourges?
Ah, mais il est enterré à Bourges.
Ah, quand même?
Oui. Il est enterré au cimetière des Capucins, dans la tombe 891.
Il y a tout un témoignage sur vraiment l'héroïsme de ce soldat, à la tête de ses troupes. Sa légende s'est poursuivie aussi dans tout cet esprit qui va faire l'esprit de revanche entre 1871, bien sûr, et 1914. Guy Grosse, merci pour ce témoignage sur le commandant Martin, de ce héros de cette guerre de 1870-71. Mais vous voulez rajouter, Guy ?
Je voudrais rajouter
que
la Corps de Défense a relancé il y a plusieurs années, parce qu'il a fallu quand même faire 5 ou 6, je ne dis pas ça méchamment, mais ça me fait du bien. Plusieurs années pour avoir une réponse, pour, comment dire, remettre en état... Dans un état correct, la tombe du commandant Martin. Alors, il y a tout un tas de problèmes de droit, de ceci. On a retrouvé la famille, tout va bien. Donc, je pense que bientôt, ça va être fait. Et cette tombe va être retapée.
Pour rendre hommage et perpétuer la mémoire du commandant Martin.
Et du lieutenant Girardin, qui a été tué le même jour, pas loin du commandant Martin. Et ils étaient copains. Donc, il a été enterré... Il y a 3 tombes en tout, donc Martin est dans ce sens-là, et l'autre, il est ici. Là. C'est-à-dire à la tête de Martin. Malheureusement, cette tombe a été relevée en 1999.
Merci encore pour ce témoignage, Guy Grosse. Merci, chers auditeurs et auditrices, pour cette fidèle écoute de notre émission La vie militaire dans le Cher et le Berry avec Agora Défense. Bonne semaine à vous et à très bientôt pour une nouvelle émission.